Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'un pays qui n'a connu que la guerre, le Biafra. De cette province du Nigeria qui fit sécession en mai 67, on a tous en tête les images de ces enfants encore rachitiques, proches de la mort, dont les journalistes de la télé française ont filmé l'agonie pendant des mois. À l'époque, ce drame est le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, tant le nombre de décès quotidiens dus à la famine dépasse tout ce qu'on avait pu connaître jusqu'alors. Les journaux, les humanitaires et certains chefs d'État parlent de génocide. Était-ce le cas ? Les inspecteurs de l'ONU n'en trouveront pas les preuves. Certes, il y a eu des massacres, des viols, des assassinats, mais aucun projet d'extermination planifié. Reste tout de même la réalité de la guerre et les images insoutenables. Derrière ce drame qui a duré 30 mois, il y a une autre histoire, moins connue, celle du rôle des forces étrangères, de la Grande-Bretagne qui a soutenu le gouvernement de son ancienne colonie, mais aussi de la France qui a fait le choix, elle, de la province sécessionniste biafraise. Aujourd'hui, 50 ans après les faits, nous allons revenir sur les deux faces de cette guerre. Celle du drame humanitaire, en suivant les souvenirs de médecins de la Croix-Rouge, les futurs French Doctors, présents sur place, et celle des combats et des livraisons d'armes de pays étrangers. Notre invité aujourd'hui, Joël Calmette, réalisateur du film « L'histoire secrète du Biafra », auteur cet été d'un article intitulé « Opération Biafra » dans la revue 21, qui écrit une thèse en ce moment même sur le sujet. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot. Coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Septembre 1968, île de Fernando Po, au large du Nigeria. Depuis 10 mois, le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, y a installé sa base arrière. À 18h, ce jour-là, 6 avions frappés de l'organisation humanitaire, chargés de vivres et de médicaments, s'envolent vers 2 aéroports du Biafra, encore accessibles. Parmi eux, un DC-10 dans lequel s'engouffre la première équipe de volontaires français envoyés sur place. Ils sont 7. Un chirurgien, un médecin, un anesthésiste, 2 étudiants et 2 secouristes, dont Max Récamier et Bernard Kouchner. Il y a quelques mois, certains d'entre eux étaient pris dans le fracas des journées de mai 68. Aujourd'hui, ils vont découvrir la guerre, loin des pavés et des discussions germano-pratines. Quand le DC-6 s'envole, c'est la seconde fois qu'il tente de rejoindre l'aéroport d'Ouli. Quelques heures plus tôt, les tirs de la DCA nigériane avaient empêché l'avion d'atterrir. Depuis plusieurs mois, le territoire biafrais se réduit comme peau de chagrin. Coupé du monde, seule la route du ciel permet de le rejoindre. Alors, quand vient la nuit, des avions se faufilent dans les nuages. Après 1 heure de vol, l'avion vire, enfin, puis plonge vers la forêt. Là, au milieu de nulle part, quelques lampes à pétrole et des phares de voiture délimitent une piste d'atterrissage. Ouli sort de l'ombre, le Biafra apparaît, le DC-6 atterrit. En arrivant à Ouli, les envoyés de la Croix-Rouge découvrent que malgré le blocus, le Biafra conserve la parade de tout état. Les juges siègent, les facteurs poursuivent leur tournée et le service d'immigration s'entretient avec chaque personne qui entre dans le pays. Après ce passage obligé, les humanitaires prennent la route sur une piste défoncée, longe des palmiers, des mangroves. Là, au milieu de la brousse, ils découvrent l'hôpital Awo Omama. C'est ici qu'ils vont vivre cette guerre. L'établissement est constitué de 5 bâtiments surélevés qui entourent un bloc central où se trouve une salle d'opération, des appareils de radiologie et un laboratoire. Dès les premiers instants, on leur présente le personnel hospitalier, constitué d'une 30aine d'étudiantes infirmières, de 2 médecins biafrais, d'un chirurgien et d'un anesthésiste suisse. Puis, les malades. Ils sont plus de 300 alors que la capacité maximum de l'établissement est de 80. 3 par lit, la visite se fait dans une atmosphère suffocante où se mélange odeur de sang séché et de transpiration. La plupart de ces blessés viennent des lignes de front, celles du sud d'Oweri et de l'est d'Oguta. Depuis plusieurs mois, la mécanique du drame se répète. Dès le matin au loin, les canons tonnent. 1 heure plus tard, les moteurs des camions annoncent l'arrivée des premiers blessés. Il y a là toutes sortes de traumatismes. Des éclats profonds, des balles dans le thorax, des fractures ouvertes, des arrachements de membres. La première étape consiste à trier les malades avec comme seule contrainte sauver le plus de monde possible et donc écarter les plus gravement blessés. La salle d'opération fonctionne 10 à 15 heures par jour. Entre le 5 septembre et le 12 octobre 1968, 321 interventions majeures sont pratiquées, dont 11 amputations. À Ouamama, les volontaires soignent et sauvent jour et nuit. Mais que peuvent-ils faire de plus ? 14 mois de combat déjà et aucun cessez-le-feu en vue. Comment le Nigeria a-t-il sombré dans cette guerre civile ? Qui finance à distance cette guerre ? De quoi cette guerre du Biafra est-elle le nom ? L'histoire du Nigeria indépendant n'a pas 7 ans quand les combats entre Nigérians et Biafra débutent.
Depuis ce matin, le monde compte un nouveau pays indépendant, la Nigeria. L'indépendance sera-t-elle au Nigeria comme en d'autres pays d'Afrique, sinon la cause, du moins l'occasion de désordre ? Ce sont là les problèmes de demain. Mais aujourd'hui, un geste symbolique et officiel, amené de l'Union Jack, monté des couleurs nigériennes à Lagos.
Lors de cette cérémonie symbolique, le 1er octobre 1960, l'Union Jack britannique est enlevée pour laisser place au drapeau nigérian. Derrière cette bannière se dresse une jeune nation aux différentes ethnies et religions dispersées sur tout le territoire. Au nord du pays, la plupart sont Haoussas et pratiquent l'islam. Les Yoruba, animistes ou chrétiens, sont présents en majorité au sud. À l'est, on trouve en grand nombre les Ibos qui sont chrétiens de confession. La nouvelle République du Nigeria doit donc construire son destin avec cet héritage colonial, celui des frontières, mais aussi celui des privilèges passés. Peu à peu, l'indépendance alimente des ambitions nouvelles. 1966 marque une première rupture au sein de cet équilibre fragile. En janvier, un chef militaire de l'Est, un Igbo, renverse par les armes les hommes du pouvoir fédéral de Lagos. En réponse à ce coup de force, des Igbos habitant au nord sont massacrés. 30 000 y perdent la vie, 2 millions d'autres partent se réfugier à l'Est. En juillet, un second coup d'État renverse le pouvoir. L'ancien chef putschiste est assassiné. Yakubu Gowon, un militaire du Nord, prend sa place. Et c'est à lui que revient désormais la charge du destin du pays et de l'union de l'ensemble des provinces. Un an après ces putschs successifs, en mai 1967, Gowon décide de diviser le pays en 12 provinces et de réformer l'ensemble des structures administratives. Écartés du pouvoir politique et économique, les dirigeants de la région Igbo décident de faire sécession. Le 30 mai 1967, le Biafra déclare ainsi son indépendance. À la tête de ce nouvel État, l'ancien gouverneur militaire, le colonel Odumegwu Emeka Ojukwu. Fils de bonne famille, formé à Oxford, amateur de Shakespeare, les Biafrais voient en lui un leader capable de mener l'indépendance par les armes et par les mots. Face à cette rébellion, le colonel Gowon, chef de l'État du Nigeria, instaure l'état d'urgence et impose aux Biafra un blocus maritime et terrestre. En juillet, Gowon fait le choix des armes pour ramener l'ordre dans la région sécessionniste. Avec très peu d'armes, les Biafraeux résistent et réussissent même l'exploit d'une percée à l'ouest. Mais l'euphorie ne dure que quelques jours. Fin septembre, Enugu, qui sert de capitale au pouvoir Biafra, est bombardée. Le 6, elle tombe entre les mains des fédéraux de Lagos. Peu à peu, sous les bombes nigérianes, les taux se resserrent sur le jeune Biafra. Le territoire diminue et les derniers accès à la mer sont le théâtre des combats les plus violents. En janvier 1968, après 6 mois d'affrontement, le colonel Ojukwu, chef biafrais, explique les raisons de cette guerre.
Nous nous battons dans une guerre qui, pour nous, est une guerre de survie. Une guerre dans laquelle nos populations ont souffert immensément. En vérité, une guerre qui eut pour cause les souffrances endurées par elles et les atrocités commises contre nos gens par nos anciens compatriotes.
Yet, it does appear that the world has shown no conscience.
Et pourtant, on dirait que le monde n'en a absolument pas conscience. Pis encore, les Anglais ont pris parti. Et presque tout ce qu'on a dit de faux sur nous peut leur être attribué.
En effet, le pouvoir fédéral du Nigeria est soutenu par la Grande-Bretagne qui lui envoie des blindés, des hélicoptères et des mitrailleuses. Les Bourbons reçoivent également le soutien d'autres pays, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne et enfin l'URSS qui lui transmet des avions MiG en pièces détachées assemblées sur place par des techniciens soviétiques. Le pilotage, lui, est à la charge de mercenaires étrangers. Et du côté biafrais, quelle est la situation? Comment s'arment les combattants? En avril 1968, Gilles Caron, un reporter de guerre français de retour du Biafra, donne les premiers éléments de réponse sur l'antenne de France Inter.
Ben, les Biafrais sont armés avec des armes très hétéroclites qui sont en majorité de provenance de récupération. On y trouve absolument de tout, des armes tchèques, russes, américaines. Et certaines viennent aussi évidemment de la contrebande.
On a parlé, Gilles Caron, d'armes qui viennent de Portugal. Ça s'est vérifié ?
Elles transitent par le Portugal, oui. Ce sont des armes qui viennent par constellation, par avion.
Mais d'où viennent ces avions et ces chargements ? Eh bien de la France, en partie. Si à l'inverse de la Tanzanie, du Gabon, de la Zambie ou de la Côte d'Ivoire, la France ne reconnaît pas officiellement le Biafra, elle est l'un de ses alliés les plus importants. Avant même le début des combats d'ailleurs, le Biafra dispose dans son arsenal de matériel français, des hélicos, alouettes, ainsi que des avions de chasse d'entraînement. À partir de septembre 1967, les livraisons d'armes deviennent régulières, notamment grâce au président ivoirien Félix Mfouet-Boigny. Sous couvert d'une coopération militaire, la France livre des armes à la Côte d'Ivoire qui peut en disposer à son aise. Comprenez, les transmettre aux forces biafraises. Bien. Mais quels sont les intérêts de la France de soutenir en sous-main ce jeune pays? Eh bien, les raisons sont doubles. D'un point de vue économique, le sol biafrais renferme les plus importantes ressources pétrolières de la région, mais son exploitation est pour l'instant dominée par les compagnies anglaises. Une victoire biafraise changerait donc le rapport de force. Mais le pétrole n'est pas la seule raison. D'un point de vue diplomatique aussi, l'opération revêt certains avantages. Pays le plus peuplé et le plus vaste d'Afrique, l'émiettement du Nigeria réduirait considérablement son poids politique et, par la même occasion, limiterait l'influence anglaise dans la région. La sécession biafraise est donc comme un caillou dans le jardin britannique dont Paris espère tirer profit. Mais ces projets, portés par Jacques Foccart, le monsieur Afrique de l'Elysée, principal conseiller du général de Gaulle, n'obtiennent pour l'heure que des résultats, disons, mitigés. Après 10 mois de combat, les Biafrais en effet n'arrivent toujours pas à faire face. Et chaque jour, les forces fédérales nigérianes gagnent du terrain. Selon les dires de ce soldat nigérian, tout Biafrais pris arme à la main doit être tué.
Combien y a-t-il de rebelles? Des tas. Combien,
pensez-vous?
Peut-être 40? Une quarantaine.
40.
40. Comment savez-vous qu'ils sont là? Je le sais, parce qu'il y a eu des coups de feu tirés d'ici cette nuit. Et qu'allez-vous faire maintenant? Nous allons les liquider, les poursuivre et les tuer. C'est tout. Et vous partez maintenant? Oui, je suis prêt. Je suis le capitaine Balougou et je suis prêt. Je vais prendre tous mes soldats, on va y aller, on va les tuer. On va les attaquer par derrière, et s'ils s'enfuient, on va tirer dessus.
Le 19 mai 1968, le gouvernement de Lagos remporte une victoire capitale. 2 jours après avoir ouvert la porte aux négociations de paix, les forces fédérales nigérianes entrent à Port Harcourt et coupent ainsi le dernier lien des Biafrais avec la mer. Malgré les défaites militaires, le colonel Ojukwu refuse de capituler. Alors, pour augmenter la pression sur son adversaire, le pouvoir biafrais ouvre un second front, celui de l'information et de la propagande. Comment ? En invitant les journalistes à constater sur place les conséquences du blocus du Nigeria sur la population civile biafraise. Dans les articles des journalistes de retour du Biafra, un mot revient sans cesse pour décrire la situation. Génocide. Un mot qui en rappelle d'autres, tels que pogrom et extermination. Comme si les temps de la Seconde Guerre mondiale étaient de retour, les Ibos sont décrits comme les Juifs et Tziganes des temps nouveaux. Et puis, après les tribunes, ce sont les reportages filmés qui accompagnent ces accusations. Le 2 août 1968, les téléspectateurs français découvrent les images de l'agonie du peuple biafrais, commentées par Pierre Sabag.
Souvenez-vous, il y a 23 ans, vous avez dit « Jamais plus nous ne verrons cela ». Je l'ai dit, vous l'avez dit. Quoi cela ? Le génocide. Le génocide au Biafra. Voici une route du Biafra. Le Biafra est réduit maintenant à la surface de 2 petits départements français. Sur ce territoire, il y a 14 millions d'êtres humains qui essayent de jouer le jeu de la mort. À ce jeu, 6 000 d'entre eux perdent chaque jour. Oui. Oui, vous avez bien entendu, chaque jour, la malnutrition ou la famine en fauche 6 000, chaque jour. Depuis le 1er mai 1968. Je veux dire en 3 mois. En 3 mois, plus de 400 000 sont déjà morts de cette façon. Ils sont 4 500 000 qui sont réfugiés, chassés, personnes déplacées, ou ils sont en quête de nourriture. Ils voudraient mourir debout. Mais souvent, ils ne peuvent plus, ils se couchent. Et ils attendent la mort. Voici une mère. Elle essaye d'allaiter son enfant. Elle ne le peut plus. Et regardez. Regardez cette image, regardez ce visage, regardez ses yeux. Est-ce que cela ne vous rappelle rien ? Moi, si. Souvenez-vous. Quelque temps après, les wagons plombés. Et ses regards. Toujours ses regards tendus vers la caméra. Voilà.
Image après image, les gros plans se succèdent sur les allures squelettiques d'enfants et de vieillards. Ils ne disent pas un mot, mais leur corps parle pour eux. Recroquevillés au sol à côté de quelques braises, la peau sur les os, ils attendent la mort. Sur les routes de ce pays aux frontières élastiques, chaque jour, des centaines de personnes meurent de faim. Alors, s'agit-il d'un génocide ? Eh bien non, car il n'y a pas eu, répétons-le, de projet d'extermination. Mais pour le pouvoir biafrais, comme pour ses alliés dont la France, l'utilisation de ce mot peut permettre de faire bouger les lignes, de faire basculer les opinions du monde de son côté. Alors, à Paris par exemple, on facilite les reportages de journalistes du côté biafrais. Dans ses mémoires, Jacques Foccart raconte sans retenue à voir, je cite, « faciliter le transport de reporters et des équipes de télé par des avions militaires jusqu'à Libreville ». Aurait-il inventé le concept de journaliste embarqué, méthode devenue courante ? La presse française a-t-elle été manipulée, ou du moins influencée ? Peut-être. Mais au milieu de l'horreur, comment ces reporters pouvaient-ils nommer ce crime qui fait de la faim une arme ? Après plus d'un an d'offensive des Nigérians pour briser la volonté d'indépendance biafraise, l'heure n'est pas à disséquer un mot, non. Chaque jour, des enfants meurent, un peuple s'éteint à petit feu. Quand ce martyr cessera-t-il ?
And no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Ooh, what did it say to make you so blind to your conscience and she has a life.
Votre Excellence, l'indépendance du Biafra ne coûte-t-elle pas trop cher à votre peuple, trop cher en misère, en souffrance et en vie humaine?
So far, the independence of Biafra has cost a great deal.
L'indépendance a coûté très cher. Mais en réalité, nous ne payons pas le prix de l'indépendance. En réalité, nous subissons la tentative de génocide des autorités de Lagos qui veulent détruire notre peuple. Nous avons eu des morts par centaines de milliers. Mais si nous tombons sous le coup de nos ennemis, alors nous serons condamnés, tous, jusqu'au dernier. Voyez-vous, pour nous, le choix est entre une mort lente et une chance de survie, si minime soit-elle. Si le Nigeria l'emporte, les chefs du Biafra auront le sort des légumes, ils seront enterrés, tués, puis enterrés. Quant à la population, la mainmise du Nigeria sur le Biafra signifierait sa disparition, et nous sommes bien décidés à empêcher cela.
Ce 1er septembre 1968, à la télé, le leader biafré Odumegu Emeka Ojukwu évoque ses craintes et sa peur d'un génocide contre son peuple. Avec la chute de Port Harcourt et l'encerclement total du Biafra par les forces nigérianes, la guerre a changé de dimension. Le Biafra est devenu un camp sans issue ni nourriture. La mort s'abat désormais sur le front, mais aussi en plein cœur du territoire. La faim tue chaque jour des centaines d'enfants. Face à la catastrophe, les organismes humanitaires s'organisent. Un pont aérien permet l'envoi de vivres et de médecins. En septembre, deux équipes françaises débarquent, l'une le 3, la suivante le 20. En plus des blessés de guerre, ces volontaires prennent en charge l'école de Santa Ana, où 3000 enfants, dont 600, sont dans un état désespéré, atteints de kwashiorkor. Si vous ne connaissez pas ce mot, vous avez en tête ces symptômes. Un visage émacié, une peau irritée, tachée, et un ventre tout rond sur des jambes aussi fines que des allumettes. Cette affection due à la malnutrition se caractérise aussi par des troubles mentaux, une décoloration des cheveux et des diarrhées. Seul un repas quotidien peut sauver ces enfants.
Alors, j'ajoute un petit peu d'eau. You mix it, you put it in. Vous me donnez un petit peu de glucose. Just a drop.
À Santa Ana, on sert chaque jour deux repas constitués d'une mixture de lait concentré et de poisson séché. Dans les cas les plus graves, seule la nutrition par voie intraveineuse peut sauver. À l'automne 1968, on estime le nombre d'enfants victimes de kwashiorkor à 150 000. Sans traitement ni nourriture, le taux de mortalité oscille entre 80 et 90%. À Santa Ana, la plupart sont sauvés, mais beaucoup reviennent quelques mois après avec les mêmes symptômes. Les médecins pensaient venir sauver des vies, ils aident juste les victimes à survivre. Premier sur la ligne des deux fronts, celui des armes et de la faim, les humanitaires sont également des témoins de scènes de panique incroyables. Dès qu'on annonce l'arrivée possible des forces nigérianes, ils voient les blessés dont ils s'occupent qui se lèvent et quittent l'hôpital malgré leurs plâtres ou leurs plaies non cicatrisées. Pourquoi ont-ils peur ? Parce que depuis le début des combats, le pouvoir de Lagos n'a pas hésité à bombarder les marchés, les écoles et les hôpitaux. Pire, selon les rumeurs venant de la ligne de front, les Nigérians ne feraient pas de prisonniers, comme l'évoque cet homme.
C'est terrible. Ça me donne envie de pleurer. Chaque fois que j'en pense. Il y a quelques jours, les Nigériens, par hasard, sont arrivés sur la population qui n'était pas encore partie. Ils ont tué tout le monde. Tout le monde, environ 1500 civils, les enfants, les femmes, les vieux.
C'était dans un village?
Bien sûr, dans un village, dans une région qui s'appelle Akwa et Igruta.
Parmi les alliés des Biafrais face aux défaites militaires, on continue à jouer la carte de l'opinion publique. Le général de Gaulle hésite entre les ambitions guerrières de son conseiller Focard et la prudence demandée de son ministre des Affaires étrangères. Pour l'heure, le général refuse de trancher publiquement. Le 9 septembre 1968, lors d'une conférence de presse, il indique aider le Biafra, victime selon lui d'un Nigeria utilisant la guerre, le blocus, l'extermination et la famine. Puis il admet qu'une reconnaissance officielle du Biafra par la France n'est pas exclue à l'avenir. Mais le général ne franchira pas le Rubicon. Jamais le Biafra ne sera reconnu par la France, mais les armes y seront jusqu'au bout livrées. En temps de guerre, l'art de la diplomatie est souvent un moyen de gagner du temps ou cacher d'autres chemins empruntés. Wow Mama, comme à Santa Ana, on s'habitue, si je puis dire, à l'urgence. Les médecins réparent des corps qu'ils voient revenir des semaines plus tard, de nouveau blessés, affamés, et aussi sont des cibles du pouvoir fédéral du Nigeria. En décembre 68, l'hôpital d'Awo Mama est bombardé. 5 malades meurent, 40 sont blessés. À Okigwe, 4 médecins de la Croix-Rouge internationale sont même assassinés par les forces fédérales. Pourtant, comme le veut la règle au sein de la Croix-Rouge, les médecins partent pour soigner et non prendre parti. Avant de rejoindre les théâtres de guerre, chaque volontaire signe un contrat où il s'engage à s'astreindre à la plus grande discrétion et à s'abstenir de toute communication sans autorisation du CICR. Au Biafra, face à la catastrophe en cours, à plusieurs reprises, certains médecins français brisent cette loi du silence dans les médias. En mars 69, de retour en France, Pascal Grelletti-Bosviel, l'un des médecins d'Awo Mama et de Santa Ana, témoigne au journal de 20h.
Il faut absolument relancer, si vous voulez, cette histoire du Biafra. On en a parlé à un moment donné, et un journaliste m'a dit à Libreville, en rentrant après 4 mois, cette chose atroce, le Biafra, ça ne se vend plus. Les bébés phoques, oui, mais le Biafra, non. La situation reste toujours dramatique. Le pont aérien fonctionne. Mais vous savez que le pont aérien est difficile parce que c'est un petit aérodrome. Il en faudrait beaucoup plus. Actuellement, au Biafra, il y a 8 millions de personnes. Sur ces 8 millions de personnes, il y a 2 millions d'enfants. Et sur ces 2 millions d'enfants, il y en a 600 000 à 700 000 actuellement atteints de famine, qu'on appelle le clochorcor, et dans un état tout à fait critique. Il faut absolument, actuellement, pour que le Biafra continue à vivre, pour que les enfants continuent à vivre, tous les jours, amener plus de nourriture et plus de médicaments. Et ça, il faut continuer, envoyer par le pont aérien et par la Croix-Rouge française notamment.
Un pont aérien qui ne tient qu'à un fil. Le 5 juin 1969, l'un des avions de la Croix-Rouge internationale est abattu. Le CICR interrompt ses vols. La Croix-Rouge française le remplace, mais à la hauteur de ses moyens, se limitant à 5, parfois 6 vols par semaine. Finalement, c'est la saison des pluies qui permet de redonner un peu de souffle à la rébellion. À l'aide des missionnaires, notamment irlandais, les volontaires français s'aventurent désormais en plein cœur de la brousse, où une partie de la population a reconstruit des maisons et des villages, attendant désormais la fin de la guerre. À la veille de Noël 1969, avec un appui renforcé de Britanniques, les forces fédérales du Nigeria lancent le dernier acte de cette guerre. Au cœur du Biafra réduit, tous savent que la fin est proche désormais. Les militaires demandent aux médecins de ne plus s'approcher d'Oweri. Début janvier 1970, la Croix-Rouge entame l'évacuation des différentes équipes de secours. À Santa Ana, les équipes françaises rejoignent l'aéroport d'Ouli avec plus de 300 enfants. Sur place, c'est l'affolement et le désordre, comme le racontent ces deux médecins, Max Récamier et Louis Chitli.
Il y a des, je sais pas moi, centaines ou plus de Biafrais qui sont venus, tous les nantis du régime, si j'ose dire, qui sont venus en grosse voiture avec tous leurs bagages, leurs enfants, qui voulaient monter aussi. Alors le pilote, on a parlé au pilote, on a dit voilà, on a des enfants, on veut les emmener. Et les enfants d'abord, et on verra ensuite ce qu'il y a, la place qui reste. Alors le pilote était d'accord, mais parmi les Biafrais, il y avait beaucoup de militaires, les colonels, tout ça. Et sur ce, il y en a un qui est venu avec la mitraillette, il a dit « Biafra d'abord ». Il était là avec sa mitraillette et puis il a commencé à faire monter quelques-uns. Et en fait, mais c'était la ruée, tous les Biafrais se sont rués sur cette échelle. Il y avait une grappe de gens qui étaient à cette échelle. Il y en avait tellement qu'on m'a donné, plaque, l'échelle a cassé. À ce moment-là, il y avait 5 personnes qui étaient montées. Alors c'était la bagaille, les gens commençaient à se battre, à se cogner dessus. Et puis, ils s'énervaient et puis le pilote a pris peur. Il a commencé à faire marcher les moteurs et puis a envoyé une soufflerie terrible dans la foule. Ils sont tous tombés par terre, les valises volaient en l'air, 5-6 mètres, les enfants valsaient partout.
Il y a eu des blessés à ce moment-là.
Ah oui, il y a eu 2 enfants tués.
En ces premiers jours de janvier 1970, la panique devance l'annonce de la capitulation. Le 12 janvier, à 16h30, la radio du Biafra annonce que le chef Ojukwu a quitté le pays et laisse à son chef d'état-major le soin de terminer la guerre. Le 15 janvier, le Biafra n'est plus. Alors, comme à chaque annonce d'une avancée des troupes nigérianes, les blessés, les malades quittent les hôpitaux et les sanctuaires pour rejoindre les forêts où ils pensent être protégés. Bien qu'également pris pour cible, 8 médecins et personnels de la Croix-Rouge, dont les 2 médecins français que vous venez d'entendre, décident de rester jusqu'au bout. Pendant plusieurs jours, ils sont coupés du monde. Ils sauvent les malades qu'ils rencontrent et attendent des forces victorieuses. Elles arrivent quelques jours après. Puis ce sont les journalistes qui leur succèdent avec toujours la même question. Y a-t-il eu des massacres ? Les deux médecins répondent toujours la même chose. Non, mais tout le monde a faim. 4 jours après le cessez-le-feu, les vivres et les secours ne sont toujours pas là. La fin d'une famine ne se décrète pas par la signature d'une capitulation. Alors arrivés à Libreville, les deux médecins restés jusqu'au bout expriment leur colère face à l'absurdité de la situation.
Nous étions un petit peu, on pestait un peu contre les organisations internationales parce que c'est à ce moment-là qu'elles auraient venir. Alors maintenant elles arrivent, ça fait 8 jours.
Ouais. On a perdu beaucoup de temps.
Oui, mais à ce moment-là ils sont venus déjà, quelques jours après ils sont venus en inspection. Hein, ils se sont dit, ah c'est horrible, et puis ils sont partis.
Oui, oui, oui.
En disant, il faut faire quelque chose, mais ils ne faisaient rien, ça traînait. Or il fallait faire, c'est une question d'urgence. Il fallait faire quelque chose tout de suite. Oui. Nous, on ne peut pas avoir d'amère. Enfin, nous, on est médecins. Hein. On avait la charge des enfants, on avait la responsabilité. Et puis, on a fait notre travail jusqu'au bout. Alors.
Quant aux puissances étrangères, elles envoient plus rapidement des armes que des vivres aux victimes des guerres qu'elles soutiennent. De ces mois passés dans le chaos de la guerre, les médecins français du Biafra retiendront une leçon. À quoi bon secourir ces gens s'ils ne peuvent témoigner en leur nom de l'urgence de leur situation? Quelques mois plus tard, Bernard Kouchner fondera avec des anciens du Biafra, justement, Médecins sans frontières. 50 ans après l'annonce de l'indépendance du Biafra, que retenir de cette guerre? Au Nigeria, elle est encore un tabou collectif. Et pour cause, ni vaincu ni vainqueur était la fin souhaitée par le général Gowon. Malgré les 500 000 à 1 million et demi de victimes, dont la majorité à cause de la faim, la formule résiste au temps, même si certains Ibos rêvent toujours d'indépendance. En Occident, la guerre du Biafra marque le début d'une nouvelle ère, celle des ingérences étrangères sur le théâtre de guerre où se côtoient humanitaires, mercenaires et reporters. Une nouvelle époque où, avec l'avènement de la télévision, la ligne de front est à nos portes et les victimes dans nos salons.
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le drame du Biafra avec notre invité Joël Calmette. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle qu'en juillet dernier, vous avez signé un article intitulé « Opération Biafra » pour la revue 21. Vous êtes réalisateur, vous avez fait un documentaire sur le Biafra, mais aussi doctorant d'une thèse sur le sujet. Elle est terminée, cette thèse, ou pas ?
Elle n'est pas terminée, encore un an et demi à peu près.
Oula, bon courage.
Merci.
Alors, votre histoire avec le Biafra commence le 2 août 1968. Vous avez 8 ans à l'époque, vous regardez la télé, et vous tombez sur l'appel de Pierre Sabag que nous avons entendu dans ce récit. Alors, pourquoi vous êtes-vous intéressé de nouveau à cette histoire, je crois, 30 ans après ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est passé que je faisais un reportage pour Médecins Sans Frontières, je discutais avec Xavier Emmanuelli, qui était à l'époque directeur adjoint de Médecins Sans Frontières, qui a voulu, lui, partir au Biafra, puis finalement, il n'a pas été dans les volontaires qui sont partis parmi les premiers, puis il me dit, cette histoire du Biafra, c'est pas si clair, il y avait d'autres enjeux que simplement l'humanitaire. Donc, ça m'a questionné, j'ai commencé une enquête, et je suis tombé sur un monsieur qui avait énormément d'archives, qu'il aurait dû livrer et qu'il avait gardé, qui m'ont permis de faire un film avec pas mal de révélations sur le soutien français.
Oui.
Et voilà.
C'est un ancien collaborateur de l'Élysée, votre informateur.
Exactement. Oui.
Donc vous avez accès aux archives de l'Élysée, notamment à celles du service Afrique du célèbre Jacques Focard, un homme de l'ombre qui a force d'être dans l'ombre et d'agir, a fini par être connu d'ailleurs. Qu'est-ce que vous découvrez à ce moment-là ?
Je découvre que la France a au moins laissé faire un soutien de certains Français, que la France ensuite a aidé. Et à l'époque, j'ai le sentiment que Focard est le deus ex machina de toute l'opération. Mmh. 20 ans plus tard, donc aujourd'hui presque, en préparant cette thèse, je m'aperçois que Focard est aussi la caisse de résonance de pas mal de forces en jeu. C'est un conflit de la guerre froide. C'est l'époque d'une rivalité, mais pas totale, entre la France et la Grande-Bretagne. Et puis,
pour l'Afrique notamment.
Pour l'Afrique notamment, mais globalement. Mmh. En novembre 67, De Gaulle refuse l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun.
Absolument.
Par exemple, donc la guerre du Biafra vient de commencer depuis 3 mois. Et en même temps, au cœur de la guerre froide, même si le général De Gaulle veut que la France ait sa voix, il est quand même du côté occidental. Donc on ne peut pas s'affronter directement à la Grande-Bretagne,
bien
et
sûr.
Réciproquement.
Bien sûr.
Donc il y a un modus vivendi entre les deux pays, même s'il y a des conflits larvés sur place, notamment au Nigeria à l'occasion de la guerre du Biafra. Et puis il y a l'émergence de personnalités africaines qui ont leur propre diplomatie, et notamment Fouet Boigny en Côte d'Ivoire, qui va en partie convaincre De Gaulle de soutenir le Biafra. Et ça, c'est assez discret encore comme analyse, mais les documents sont assez clairs sur ce point. Il y avait des enjeux régionaux importants au Fouet de Boigny.
Alors, les enjeux régionaux et géopolitiques de la France et de la Grande-Bretagne qu'on a tenté d'expliquer dans le récit, c'est bien ça. Il s'agit d'aller marcher sur les plates-bandes des territoires, on va dire, comment dire, ne pas gouverner évidemment, mais sur lesquels la Grande-Bretagne a une influence. C'est une guerre d'influence, c'est ça
une
aussi.
Une guerre d'influence, mais c'est avant tout, j'allais dire, et pour Fouet de Boigny et pour Focard. Au bout d'un moment, par contre, au début de la guerre, Focard n'est pas du tout convaincu qu'il faut soutenir le Biafra. L'histoire est un peu réécrite de ce point de vue-là. Il met quelques mois à changer d'avis. Mmh. Et puis, il est surtout très mal informé sur la personnalité d'Ojukwu, dont il va s'apercevoir à la fin de la guerre qu'il n'est pas l'homme idéal auquel il a cru. Et il n'a personne sur le terrain. Donc le conflit, il est également entre un nord du Nigeria, soutenu par les Russes, parce que simplement les Américains ne veulent pas livrer d'armes au Nigeria. Mmh. Le Nigeria dit en juillet 68, si vous n'hésitez pas, on va aller voir le diable. Ils le disent en ces mots-là aux diplomates américains, et ils se tournent vers Moscou.
Vers le diable donc.
Vers le diable à l'époque pour les Américains. Et les Russes commencent à livrer des armes. Pour au feu de Boigny et pour les Français, c'est l'association des Arabes communistes qui veulent descendre jusqu'à l'Atlantique. Et ça, c'est inenvisageable. Les Nigérians n'ont pas de pilote d'avion. Donc, c'est des mercenaires égyptiens qui viennent. C'est l'époque de Nasser.
Ouais.
On sort de la guerre des six jours. Nasser, aidé par les communistes. Donc, est transposé à travers le Biafra, la guerre froide. Et c'est les enjeux de fond de la guerre, en fait. Le pétrole, c'est secondaire. Embêter les Anglais, c'est bien. Affaiblir le Nigeria, on gagne à tous les coups à tout ça. Mais l'essentiel, bloquons les musulmans aidés par les communistes. Cette association.
Donc c'est bien conflit. La guerre froide, c'est maintenant très clair. Et pourquoi le Biafra, lui, veut-il son indépendance ? Qu'est-ce qui se passe par rapport au Nigeria ? Là encore, on l'a abordé, mais je voudrais
alors
votre
expertise
sur ce point.
Vous l'avez abordé. Ces deux populations avec des cultures différentes, des religions différentes. Et puis, surtout, les Anglais ont dirigé différemment pendant la colonisation les deux, le nord et le sud du Nigeria. Au nord, ils ont adopté l'indirect rule, c'est-à-dire ils ont laissé les structures traditionnelles en place, et au sud, ils ont colonisé, comme on peut le faire, en éduquant les populations. Si bien qu'à l'indépendance, les gens du sud, et notamment les futurs Biafrais, sont aux manettes de l'État, alors qu'ils sont minoritaires en population. Et alors effectivement, immédiatement, rivalité, refus des populations du Nord d'être dictées par les attitudes du Sud, etc. Donc c'est pogrom, on va dire, en tout cas c'est quelques milliers de morts, et cet exode monstrueux. Il faut dire qu'également, le Biafra a également la possibilité d'être riche, puisqu'il y a du pétrole qui naît sur son sol.
Absolument.
Mais quand on analyse un peu plus finement, il y a différentes populations au sein du Biafra, et les puits de pétrole ne sont pas chez les Ibos, mais chez d'autres groupes de population. D'ailleurs, les pétroliers français sont contre la sécession. Eux analysent le fait que, d'une part, ce n'est pas les Ibos qui ont le pétrole, et ensuite, que de toute façon, les Ibos vont perdre.
Ouais.
Donc les pétroliers sont contre.
Alors, on a parlé de Mouffette Boigny pour la Côte d'Ivoire. Il faut parler aussi d'un autre chef d'État africain assez puissant, à l'époque, Omar Bongo, hein, président du Gabon.
Il arrive tout juste.
Gabon.
Il est tout jeune.
Il est tout jeune.
Il vient de succéder à Léomba. Il est mis en place par Jacques Foccart. Très clairement.
D'où la puissance du Gabon, complètement cornaqué par la France.
Très clairement. Et ça va être la base arrière du soutien français au Biafra, soutien humanitaire officiel filmé par les journalistes, et puis soutien militaire par une fausse compagnie d'aviation, par des livraisons d'armes la nuit, sous couvert de ponts humanitaires. Tout ça, ça part de Libreville.
Ouais.
Libreville qui va devenir le nouvel allié puissant de la France en Afrique centrale. Remplace le Congo, qui est marxiste à l'époque, le Congo Brazza, comme on disait, et l'ex-Congo belge, où Mobutu arrive, et Mobutu, c'est le pion des Américains. Les Français ont échoué à prendre le Congo belge, et donc ils s'installent au Gabon, on va dire. Voilà. Et le président Bongo est très, très fidèle et très docile à la politique de Foccart à ce moment-là.
Et c'est une dynastie qui s'installe au Gabon, avec Bongo. Tiens, qu'on va écouter le président Bongo, président du Gabon, c'était le 30 août 1968.
Un génocide est en cours. Des centaines de milliers de gens sont morts de faim ou ont été massacrés. Des centaines de milliers d'autres sont condamnés. Le silence aujourd'hui n'est plus possible. Et pour ma part, je me refuse à me faire le complice de ces crimes internationaux. Au Biafra, ce n'est pas seulement l'Afrique qui est en cause, mais une certaine idée qu'on s'est fait de l'homme. Mon gouvernement a déjà reconnu l'indépendance du Biafra avec trois autres pays d'Afrique et nous sommes reconnaissants au général de Gaulle d'avoir pris position publiquement. Maintenant, il faut aller plus loin.
Voilà, Omar Bongo, petit télégraphiste de la France, notamment, et l'extrait que nous venons d'entendre a commencé par ce mot que prononce Bongo, le génocide. Comment ce mot s'est-il imposé dans le récit de cette guerre, dans la voix des journalistes et des pays alliés au Biafra? La preuve, le mot est lourd, il correspond à une définition précise, qui a été reprécisée d'ailleurs, longtemps après le Biafra. Là, on parle de génocide. Deux questions. Est-ce que c'est un génocide ou non? Et pourquoi on en parle?
C'est pas un génocide, puisque les Biafrais qui étaient capturés ou qui étaient pris par les Nigérians, par le gouvernement central, n'étaient pas exterminés. Il y a eu évidemment des massacres, des dérapages, des viols, il y a eu les horreurs de la guerre, mais ils n'étaient pas exterminés. Le but n'était pas d'exterminer les Biafrais.
Il y avait quelque chose de planifié, quoi.
Il n'y avait rien de planifié, c'était simplement un blocus total pour qu'ils ne fassent pas sécession. Préserver l'intégrité territoriale du Nigeria. Alors le mot a été véhiculé d'abord par les Biafrais. Les Biafrais, évidemment, il y a toujours une forme de racisme dès qu'on parle de groupe en Afrique. Les Biafrais, c'est des gens éduqués, puissants. Ils ont une agence de presse à Genève qui s'appelle Marc Presse, qui communique tous les jours, qui arrose le monde entier d'informations. Dans les communiqués de cette agence, Marc Presse, il y a le mot génocide très tôt qui vient. Ce qui se passe, c'est que les gens qui sont sur place n'ont pas le droit de traverser le front, n'ont pas le droit d'aller côté du Nigeria. Ils ne viennent, eux, que par ce pont aérien, en gros, aux mains des Français venant de Libreville, ils ne peuvent que voir l'horreur, c'est-à-dire ces enfants et ces vieillards en train de mourir. Donc ils sont convaincus que c'est effectivement un génocide. Et rapidement, à partir du printemps 1968, tous les témoins deviennent militants de la cause biafraise.
Kouchner le premier,
Kouchner, il revient, il crée un comité de lutte contre le génocide au Biafra, de bonne foi.
Oui,
et tous ces gens sont généreux, sont enthousiastes. Et pour Focard aussi croit qu'il y a un génocide en grande partie, y compris à la toute fin du conflit. Étonnamment, il y a une mésinformation totale. Les gens qui sont sur le terrain sont des proches de Focard. Des proches idéologiquement, ils sont anciens combattants, ils sont résistants, anticommunistes, anti-musulmans. Et ils sont tous convaincus, catholiques souvent, chrétiens, ils sont tous convaincus qu'ils assistent à un génocide. Donc ils sont tous militants. Donc il y a... toutes les lignes sont brouillées pour ouais. Biafra. Tout bien est brouillé.
Quel est l'enjeu pour le général de Gaulle?
Alors, le général de Gaulle hésite sur la question biafraise. D'une part, il poursuit toujours cette politique qu'on appelle la politique de grandeur, donc que la France ait sa voix, entre les deux grands. Ouais. Il se trouve que là, il y a quasiment association de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de l'URSS côté Nigeria. Donc la France s'occupe des opprimés, des pauvres. Sociologiquement, au milieu du Biafra, il y a mai 68. Et voir la jeunesse française qui s'engage pour aider ses enfants en train de mourir, c'est quand même mieux que de les voir jeter des pavés sur les CRS. Donc, il y a un intérêt politique. Mais au-delà de ce cynisme, il est sensible à la question des enfants. Il ne veut pas aller jusqu'au bout, il ne veut pas reconnaître le Biafra. Ce que lui suggère sans cesse Houphouët Boigny, par exemple.
Ouais. C'est l'Afrique aussi. Et pour la France, de cette époque-là, aujourd'hui encore d'ailleurs, ouais. C'est toujours un enjeu.
Hein, c'est toujours
parfois
un enjeu.
Ça s'appelle France-Afrique d'ailleurs.
Oui, et en l'occurrence, France-Afrique et Afro-France. Ouais. Houphouët Boigny est très important sur le conflit. Mais de Gaulle, à ce moment-là, essaye aussi de normaliser relativement les relations avec l'Afrique. Mais ses proches, pas forcément.
Justement, au sein du gouvernement français, il y a plusieurs. Je vous coupe, hein, mais parce que vous me tendez la perche. Il y a plusieurs tendances, et on va écouter les souvenirs de Pierre Messmer. Donc, il était ministre de la Défense à l'époque, et c'est un extrait de votre documentaire Histoire secrète du Biafra, produit par Point du Jour.
Le Nigeria est un géant. Affaiblir un géant, ça n'est jamais politiquement une mauvaise formule, car les géants ont toujours tendance à abuser de leur puissance. Et on pouvait craindre que le Nigeria en abusât un jour ou l'autre. Alors, mon idée était très simple. J'étais favorable à la révolte biafraise, mais je ne croyais pas à son succès.
Alors, dans votre article maintenant, vous parlez d'une réunion décisive à Matignon, l'article de CTD, le 13 septembre 1968 à Matignon, c'est Maurice Couve de Murville à l'époque, qui est Premier ministre, hein, d'accord? Qu'est-ce qui a été décidé ce 13 septembre 68?
Il est décidé d'armer le Biafra, de livrer des armes au Gabon et à la Côte d'Ivoire, qui eux-mêmes les livrent ensuite au Biafra.
Ouais.
Donc la France n'est pas directement responsable, à la demande des présidents ivoiriens et gabonais, qui ont eux-mêmes des conseillers qui sont proches de Focard. Donc tout ça est très compliqué. D'où vient la demande réellement? C'est difficile de le savoir. En tout cas, il est décidé d'envoyer ses armes, de créer une fausse société de livraison d'armes à partir de Libreville, d'envoyer de l'humanitaire. C'est la réunion des désaccords, et Couve de Murville, Premier ministre, dit ces gens-là, ce soutien ne fait que prolonger l'agonie. Pourtant, ce soutien va se prolonger 18 mois, et par exemple, Pierre Messmer était contre au début le soutien au Biafra. Mmh. Pourtant, quand De Gaulle démissionne en avril 69, que fait Pierre Messmer? Il redouble livraison d'armes de façon à ce que l'idée du général perdure à lui et pour embêter Poher. Donc c'est une époque qui est totalement nourrie de paradoxes.
Oui. Alors Poher, on rappelle, président du Sénat, puis...
président de la République par intérim au départ
intérim, quand Georges Pompidou meurt, hein.
Et au départ de De Gaulle en 69.
Et au départ de Gaulle en 69. Et Poher qui est battu par Georges Pompidou.
Par Pompidou.
À la présidentielle de 69, c'est bien ça.
Exactement.
Bon. Et Jacques Focard, il fait quoi alors? Puisqu'il a...
Alors Jacques Focard
est écarté. Le gouvernement n'est pas complètement d'accord.
Jacques Focard, il a la manœuvre derrière.
Ouais.
Jacques manœuvre, c'est-à-dire que tout est compliqué. Les services secrets sont pas en cours auprès de De Gaulle depuis l'affaire Ben Barka. L'arrestation la mort de Ben Barka, le Marocain. Ils sont rattachés au ministère des Armées, mais Messmer ne contrôle pas les services secrets. Le ministère de la Coopération, Focard, met des gens à lui, mais est contre ce qui se décide aux affaires étrangères, auxquelles il est pourtant relié. Enfin, c'est une structure très complexe.
Ah oui, c'est moi qu'on puisse dire. Bon, quand Ojukwu, le chef de la rébellion, est finalement relâché par les alliés, alors, pour votre documentaire, vous l'avez rencontré.
Oui.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit de cette époque? C'est quoi? C'est ce qu'il en a gardé, son analyse, après coup?
Ben, je crois qu'il a été très touché et heureux d'avoir côtoyé les grands de ce monde. Il va à Addis Abeba, il rencontre le Négus, il rencontre au Fouet de Boigny, il écrit à De Gaulle, bref, c'est un peu l'heure de gloire d'Ojukwu. Il a toujours espoir à ce moment-là, il est revenu, quand je le rencontre, il est revenu au Nigeria, après 20 ans d'exil en Côte d'Ivoire. Pas pour rien qu'il fait son exil en Côte d'Ivoire,
oui,
où Fouet de Boigny l'accueille, évidemment,
bien sûr.
Qu'il l'a aidé longuement, et il est sénateur à vie, et il espère que la cause biafraise va renaître.
Est-ce que c'est tabou au Nigeria, cette question
C'est une situation politique toujours tendue, oui. Il y a eu un couvre-feu il y a une quinzaine de jours au Nigeria, et il y a des velléités toujours d'indépendance interne, on va dire.
Et on n'en parle pas, j'imagine. Ou on n'a pas le droit d'en parler.
On en parle, mais enfin, il ne faut pas trop monter de soutien, objectivement, quoi.
Quelles ont été les conséquences de cette guerre dans les relations entre le Nigeria et la France? Quel genre de relations on entretient, nous, avec ce pays important, en Afrique le plus peuplé?
Le plus peuplé.
L'un des plus riches, peut-être.
Un des plus puissants, plus riches, oui. Alors, bizarrement, deux ans après la fin de la guerre du Biafra, les compagnies pétrolières françaises reviennent s'installer au Nigeria. Il n'y a pas de conséquences pour l'économie française au Nigeria. Également parce que le Nigeria veut d'une part montrer une distance vis-à-vis de la Grande-Bretagne, mais aussi parce qu'il négocie des accords de commerce privilégiés avec la communauté européenne, et que c'est la France qui est le point de blocage éventuel. Donc le Nigeria est bienveillant vis-à-vis de la France après la guerre, paradoxalement. Par contre, la guerre du Biafra a une conséquence irrationnelle mais importante, c'est d'associer l'Afrique et l'Afrique des indépendances au drame, à la souffrance et au malheur, qu'on retrouvera en écho en Éthiopie, dans le Sahel, par toutes ces famines. Et à l'époque, ça fait le jeu de certains pays qui veulent pas lâcher leurs colonies, par exemple le Portugal, qui se prête au jeu de soutenir toutes les guérillas pour montrer que ces Africains sont incapables de gérer eux-mêmes leur pays. Donc ça associe quand même pour une longue durée l'Afrique à la souffrance.
D'ailleurs, on n'a pas retenu les leçons. Si on avait retenu les leçons, on n'aurait pas assisté à un autre drame, celui du Darfour, par exemple.
Oui. Alors on a retenu des leçons quand même, notamment en France, c'est-à-dire que c'est quand même la dernière fois qu'on essaye de modifier objectivement les frontières issues de la colonisation.
Oui.
C'est la dernière fois. On l'avait tenté avant, les Français l'avaient tenté avant, Foucault l'avait tenté plusieurs fois, c'est la dernière fois.
Pour vous, de quoi cette guerre du Biafra est-elle le nom, finalement? C'est quoi? Alors on l'a dit, colonial, néocolonial, guerre froide, hein, c'est vraiment un épisode de la guerre froide, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cela encore?
Derrière, il y a une sorte d'outrecuidance de l'Occident qui va s'immiscer dans des affaires de pays auxquelles il ne comprend rien. Les Français, les Portugais qui ont aidé le Biafra ne savent absolument pas qui sont les Biafrais. Il a suffi d'un émissaire de l'Élysée pour aller rencontrer Ojukwu, le chef de la sécession, pour revenir et dire ce type est un leader, il est soutenu par son peuple. Et aux yeux de De Gaulle, ça veut dire peuple, ça veut dire droit à l'autodétermination, droit des peuples à disposer du même. Ouais. Donc on peut soutenir.
Cette guerre du Biafra sera notre dernier mot. Et si, quand on reviendra sur cette guerre, lors d'une rediffusion, peut-être on assistera sur cet aspect qui est important, qui est l'aspect humanitaire. Le Biafra était vraiment un socle de l'action humanitaire, de l'ingérence humanitaire. Plus tard, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, totalement. C'est la naissance de l'humanitaire médiatique aussi. C'est l'essor de la télévision, c'est l'essor des news magazines, et c'est la naissance de l'humanitaire partagé. Il y a trois quêtes à la télévision française, une loterie montée par Pierre Belmar qui rapporte énormément d'argent pour les Biafrais.
Merci infiniment, Joël Calmette. Merci pour tous ces éclairages. Au revoir et puis encore bon courage pour votre thèse.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le drame du Biafra, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Ludovic Asselot qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons l'incroyable évasion de Michel Vaujour, exfiltré par hélicoptère piloté par son épouse Nadine Vaujour.